ce matin ou hier soir, Paola Pigani expliquait qu'elle écrivait pour apprendre, pour comprendre. Elle écrivait par méconnaissance, pour creuser un sujet. Et ben, moi, j'aime bien animer des débats sur des sujets que je ne connais pas du tout et où j'ai beaucoup à apprendre. Et je crois que l'art en prison, l'art et la culture en prison, pour beaucoup de personnes, c'est un continent inconnu, une terra incognita. Et j'aimerais bien que ce débat, peut-être à la fin, même si on n'aura pas tout appris, nous permette d'y voir un peu plus clair et de comprendre les enjeux justement de ces questions-là. Ces questions, moi, je les ai croisées de manière empirique, notamment à travers des festivals ou des manifestations littéraires qui, effectivement, essayent d'amener la littérature, l'art dans les lieux de détention. Le Printemps du Livre de Grenoble, par exemple, pour lequel j'ai beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup d'interventions à la maison d'arrêt de Vars, par exemple. Le Festival de l'Arpenteur, qui est un festival d'Ambeldon, que je connais beaucoup, a aussi un projet en partenariat avec le Centre pénitentiaire d'Eton. Et je peux témoigner par exemple d'une expérience magnifique qui a eu lieu il y a 4-5 ans, je crois que c'était 2 ans avant le confinement, où un artiste plasticien, Fabrice Nesta, était intervenu en atelier dans la prison, et ensuite, comme chaque année, plusieurs détenus avaient été autorisés à sortir et avaient travaillé avec lui, et leurs portraits, des autoportraits avaient été placardé dans les rues du village, et c'est un très très beau souvenir, très émouvant, sur ces moments particuliers que vivent ces détenus dans cette approche artistique et culturelle. Je crois que Laureline pourra nous donner d'autres exemples de coopération. Voilà, donc c'est un peu pour poser le cadre. Alors, on est là ici avec Alexandre Civico, qui va nous parler d'une résidence d'écriture qu'il a conduite dans des conditions particulière et difficile, compliqué par le Covid, hein, notamment. Donc, il expliquera ce qu'il a voulu entreprendre dans cette expérience. Donc, Laureline Bûcher, puisqu'elle est sur le départ, coordinatrice culturelle au sein du SPIP. Alors, peut-être 2 mots sur le SPIP. C'est une émanation des administrations pénitentiaires. C'est un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce sont des personnes qui travaillent, comme il y a le mot insertion dedans que j'ai envie de souligner, qui travaille à la réinsertion des détenus, qui travaille la mission globale, c'est d'éviter la récidive. Ça, c'est la grande mission générique des SPIP, et c'est donc des fonctions d'accès à la culture, à la lecture, lutte contre l'illettrisme, action culturelle, etc. Donc vous pourrez détailler, Laureline, ces missions que vous avez conduites pendant plusieurs années. Donc Laureline Bûcher, qui a mené d'abord ses missions dans un cadre associatif, d'abord, puis ensuite elle a été recrutée comme contractuelle, on va dire ça, voilà, et qui va aller voguer vers d'autres cieux professionnels, mais qui pourra parler de ce qu'elle a réussi à mener, à conduire, à développer au sein du SPIP de Chambéry, c'est ça ? Voilà. Savoie, le PSIP Savoie. Oui, c'est des instances départementales. Voilà. À côté de moi, donc Justine Rollet, qui est enseignante, professeure des écoles, détachée au sein du centre pénitentiaire d'Eton depuis 20 ans. Alors, au téléphone, elle m'a dit j'ai pris perpète, je trouve ça très drôle. Voilà. En tout cas, ça signifie un engagement de longue date dans ces missions-là. Et elle pourra effectivement nous expliquer qui sont ses élèves. Qu'est-ce qu'ils entreprennent, quel est ce public, quelles sont les visées éducatives de formation qui sont conduites et quel rôle elle a pu jouer dans notamment la résidence d'Alexandre. Je vais peut-être venir vers vous, Alexandre, pour commencer, si vous voulez bien, pour qu'on précise le contexte de cette expérience. D'abord dire que vous êtes écrivain, en effet, trois romans à votre actif. Et je parlerai peut-être du dernier, Atmore, Alabama, parce qu'il est question d'une prison.
Et en effet, il est question d'une prison. le nœud du roman, c'est pas une prison, c'est autour d'une prison.
Autour de la prison.
Oui, en effet.
Vous avez un personnage qui tourne autour d'une prison, et je me suis demandé si vous n'aviez pas eu envie d'entrer dans la prison pour aller vérifier des hypothèses.
Ah ben carrément, pas forcément pour aller vérifier des hypothèses, parce que j'en avais pas tellement. J'avais juste une ignorance absolue de la prison. Et en fait, pardon. Olivia, donc de Bomblé, il y a maintenant 2 ans, m'avait proposé de faire une micro-résidence comme il y en a quelques-unes autour du festival. Ouais. Et puis je lui avais dit, bah, moi je veux bien, mais ce qui m'intéresse, c'est la prison, puisque comme j'avais tourné autour, je voulais rentrer dedans. Pour une micro-résidence, ça n'était pas possible. Ouais. Effectivement, je me voyais mal en plus rester enfermé 24 heures dans une prison, c'était un peu bizarre. Et puis elle est revenue vers moi très rapidement après en me disant, est-ce qu'une résidence de 15 jours t'intéresserait? Là, j'ai dit, bah oui, évidemment, puisque en plus c'était une résidence dans des circonstances vraiment exceptionnelles, puisque j'avais accès à tout. C'est-à-dire que il y avait un travail avec les détenus dont on parlera sans doute, qu'on va évoquer. Et puis il y a eu toute une semaine où chaque matin j'ai pu visiter tous les services de la prison, vraiment absolument tout. Enfin voilà, je suis passé. J'ai
tu peux nous énumérer quelques-uns des services de la prison? On se rend pas compte parce que c'est qu'une prison.
Alors il y en a un, celui qui a été le plus frappant pour moi, ça a été j'ai passé une matinée avec une conseillère de probation qui reçoit les détenus qui sont arrivés la veille, qui sont arrivés dans la nuit, et donc ils atterrissent en prison. Là en l'occurrence il y avait une bande de gamins albanais qui avaient 18-19 ans. C'était assez hardcore d'ailleurs, c'est formidable la manière dont cette femme arrivait à la fois à être très humaine, à la fois à être extrêmement carrée, puisque on va leur expliquer ce qui se passe avec en albanais, donc avec Google Translate. Enfin, c'était quand même pas simple. Mais voilà, j'ai eu accès à tout ça. J'ai eu accès à ce qui fait le quotidien de la prison en dehors de la cellule, c'est-à-dire tous ces gens qui travaillent autour. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec un surveillant qui m'a tout fait visiter de fond en comble, Stéphane, qui était un type absolument formidable, très humain aussi. Enfin, voilà, donc j'ai pu voir tout ça, j'ai pu voir le cadre, et puis ensuite, j'ai eu accès aussi aux gens qui s'y trouvent, donc assez détenus avec qui on a conduit un projet.
D'accord. Alors peut-être expliquer peut-être le rôle de l'Aurélie dans l'occurrence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on, entre guillemets, avec plein de guillemets, on recrute les détenus qui vont participer au projet. Comment ça se passe? On fait de la pub, on passe dans les... Enfin, comment ça se... concrètement, vous réussissez à organiser un groupe pour une action culturelle?
Alors là, dans le cadre de la venue d'Alexandre, on travaille en partenariat donc avec l'ULE, l'unité locale d'enseignement, hein, que vous présenterez, je pense.
Un peu de sigle.
On en a beaucoup chez nous, alors je vais essayer de les détailler, mais il peut y en avoir quelques-uns dans mon langage. Mais effectivement, dans le cas d'Alexandre, moi j'ai abordé les choses un peu différemment qu'un projet culturel lambda, c'est-à-dire qu'effectivement, on t'a fait un magnifique planning de visite complète, voilà, de présenter les différents services, donc que ça soit l'enseignement, que ça soit donc la détention pure, les arrivants, les CPIP, donc les conseillères ou conseillers, pénitentiaires d'insertion de probation. On a fait également le médical, on a fait plein de services différents, la formation, le travail. Voilà, il y a plein de choses en détention, c'est vraiment une mini-ville. Et donc pour la communication et les inscriptions, c'est toujours, en tout cas sur les activités socioculturelles, sur la base du volontariat. Et on met en place donc une sorte de campagne de com, ce qu'on appelle comme ça en interne. On fait des affiches avec des flyers qu'on essaye de rendre attirants aussi, parce qu'on sait qu'on s'adresse aussi bien à des personnes tout à fait cultivé, mais également aussi à des personnes qui sont dans des situations d'illettrisme ou d'analphabétisme. Donc il faut essayer de trouver tout le temps un juste milieu. Donc il faut que les affiches soient attirantes. Et puis derrière, voilà, on constitue une liste qu'on soumet à validation. Voilà, c'est toujours beaucoup d'étapes à suivre et de protocoles qui se mettent en place. Et donc là, l'idée, c'était de constituer un groupe de lecteurs donc, qui soit là sur le long terme. Donc après, en fonction de nos conditions, ben voilà, on adapte un petit peu ce groupe. Évidemment, des gens qui sont intéressés par le sujet, qui ont une liberté d'expression sur toute leur situation, etc. On disait tout à l'heure que voilà, on avait des profils qui venaient d'arriver et puis des profils qui étaient là depuis très longtemps.
Il y avait des vieux routards, oui.
Il y a des routards aussi, voilà, qui ont fait plusieurs établissements. voilà. Donc on a vraiment de tout et toutes les strates de la société en détention. Donc l'idée, c'est de trouver un groupe qui puisse être homogène et qui soit dans l'échange.
D'accord. Ensuite, votre rôle pendant la résidence, autour de la résidence, Ça a été de suivre aussi, de vous informer, comment vous avez accompagné la résidence?
Ben moi, c'est tout le sens de mon travail, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de travail plutôt en préparation, en amont. On a beaucoup discuté, ouais. Aussi bien avec le festival qu'avec Alexandre, de savoir voilà, quelles étaient les attentes aussi, parce que accueillir un artiste en résidence, c'est pas commun non plus en détention, hein, c'est pas des choses qu'on fait tous les ans non plus. On accueille des auteurs sur des demi-journées, sur des rencontres, des temps d'échange, mais une résidence de 2 semaines, ça s'était pas fait, en tout cas, est-on depuis longtemps. Et donc voilà, c'est important aussi de saisir les attentes de l'auteur, mais aussi de savoir voilà, le public également, savoir ce qu'ils étaient prêts à échanger, la façon dont on allait pouvoir échanger aussi. Donc tout ça, ça se prépare. Et une fois que tout est prêt, normalement, si j'ai bien fait mon travail, tout se déroule normalement comme il le faudrait, hors Covid, évidemment.
Peut-être tout à l'heure, j'évoquais vos missions plus largement. C'est important de dire que l'action culturelle d'un centre pénitentiaire ne peut se développer que par des partenariats. Donc peut-être, si vous vouliez illustrer d'autres exemples de partenariats que vous avez pu développer pendant votre présence au SPIP Savoie.
Alors les partenariats, on en a beaucoup, évidemment. Alors on a des, pour revenir un petit peu à la base de l'ensemble des types de projets qu'on peut mettre en place, on a 5 pôles socioculturels auxquels on doit répondre de façon à peu près équitable. C'est des carnets de commandes voilà, interrégionales. On a le livre et la lecture, hein, donc là on est en plein dedans. On a l'art plastique, on a l'art vivant, le cinéma et l'audiovisuel, et une partie socio-éducative. En plus de quelques autres projets collectifs que j'accompagne également donc avec les conseillers pénitentiaires pour les aider à monter les projets, parce qu'évidemment donc monter un projet de partenariat ça se fait pas comme ça, ça prend du temps. Dans le cadre de l'administration pénitentiaire, ça nécessite des accords, des conventions et parler un petit peu de financement également, donc éventuellement de subventions. Donc voilà, ça c'est des choses qui se préparent. Et en termes de partenariats qu'on a pu mettre en place ces dernières années, un peu important, on a notamment le musée des Beaux-Arts de Chambéry, la Cité des Arts, tout ce qui est partenariat public pour les qui ont des obligations aussi auprès des publics empêchés, que ce soit donc les personnes détenues, les personnes handicapées, etc. Donc on a des temps et des budgets qui sont consacrés à ça. Donc sur ces temps, il faut se coordonner et se mettre d'accord sur ce qu'on va mettre en place ensemble. Et après, on a d'autres partenariats qui sont plutôt avec des auto-entrepreneurs, des artistes. Donc après, en fonction des intentions, il y a tout un travail de préparation sur l'intérêt et les bénéfices qu'on peut amener aux personnes. Et donc, dans le cadre des partenariats publics, pour vous donner un autre exemple, on a pu mettre en place depuis 5 ans déjà, avec le Musée des Beaux-Arts et la Cité des Arts, par exemple, des œuvres de la réserve du musée qui viennent dans les établissements. Alors là, on parle du centre pénitentiaire d'Eton, mais il y a également donc, la maison d'arrêt de Chambéry, qui est au centre-ville, hein, qu'on oublie souvent. Ouais. Mais elle est là, elle est en plein cœur du centre-ville. On fait venir des œuvres donc, de la réserve du musée. On fait tout un travail de médiation autour de ces œuvres. On faisait une sélection, les personnes hein, qui participaient faisaient une sélection des œuvres qu'ils avaient préférées. On faisait vraiment tout un travail d'analyse de l'image, de l'histoire de l'art, etc., des matériaux. Et ensuite, ils en faisaient leur propre interprétation. Alors, pour des questions d'anonymat, souvent on travaillait ces dernières années sur la thématique du masque. Et donc, à la Cité des Arts, en novembre dernier, par exemple, on a fait une grande rétrospective de ces 4 années d'exposition qu'on a pu faire au Musée des Beaux-Arts, autant que dans les établissements. Et il y a tout un travail aussi de livret, de site internet qu'on a pu mettre en place pour montrer ce que les gens ne voient pas, c'est-à-dire la création qui se fait en détention et dans les murs. Et ça me tenait particulièrement à cœur de mettre des projets en place où il se passe un dedans et un dehors, et de montrer aux gens ce qu'ils pouvaient se faire.
Ouais. On va passer la parole à Jocelyne Rollet, si elle veut bien. On ne ricane pas dans la salle. Les copines.
Il y en a qui me surveillent.
Moi, je pensais qu'il y avait effectivement l'enseignement en lieu de détention. Peut-être nous expliquer le dispositif global. Qui sont vos élèves? Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre? Et quel est votre rôle?
Alors, à l'ULE, c'est un peu différent, je dirais. Peut-être on peut le présenter comme ça, du dehors, où on a des classes, où on met des élèves. Et nous, il y a des gens qui demandent, c'est sur la base du volontariat, puisqu'ils sont, à Eton, ils sont majeurs, à la différence d'élèves mineurs qui vont avoir une obligation scolaire dans d'autres établissements. Et en fonction un peu des demandes, on va former des groupes, on va établir une offre de formation. Et ça va de la personne qui apprend à lire, de la personne qui apprend le français, qui ne connaît pas le français, à des gens qui suivent par correspondance des licences, des maîtrises, des... Voilà. Donc, on fonctionne... On passe des examens en prison. Les examinateurs viennent à l'intérieur. On est un établissement où on passe des examens. On est centre d'examen. Donc, on peut passer des CAP, on peut passer un bac, on peut passer... voilà. On fonctionne... Alors, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on me dit, mais vous faites des cours de maths, vous faites... Alors, moi, je suis issue du premier degré. La plupart des enseignants sont issus du premier degré. Pourquoi ? Parce qu'ils sont polyvalents et qu'en prison, il faut faire un peu couteau suisse. C'est-à-dire, il y a quelque chose avec quelque chose de spécialisé. Ben, on va un peu s'auto-former pour le faire. On fait du français langue étrangère, on fait... des maths, et puis le lendemain, il faut faire de l'histoire géo, et puis voilà.
Ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de souplesse de votre part. C'est quasiment une éducation à la carte, selon les demandes.
Il faut s'adapter. C'est sûr. Et puis, donc, il y a des choses très scolaires. Voilà, des gens qui ont l'objectif d'un diplôme, et puis il y a ceux qui n'ont pas forcément l'objectif d'un diplôme. Et pour cela et pour nous aussi, on a besoin, je dirais peut-être aussi, d'un peu de respiration. Et on fait ce qu'on appelle des projets transversaux. C'est là qu'on va faire des choses avec le SPIP en partenariat ou avec d'autres services, avec des projets où on peut mettre tout un tas de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Et on va pouvoir faire des choses chouettes.
Alors, en l'occurrence, la résidence d'Alexandre, comment ça s'est passé pour vous ? Quel a été votre rôle ?
Donc, en amont, voilà, le SPIP avait organisé. Nous, on avait un rôle pratique, c'est-à-dire le prêt de la salle où ils pouvaient s'installer pour que ce soit le plus confortable possible. Et en prison, ce n'est pas forcément facile.
Oui, ce n'est pas toujours gagné.
C'est pas toujours gagné d'avoir un lieu confortable. Alors, comme ça, ça ne paraît pas. On peut dire, on met des gens dans une salle. Et puis... Mais ils sont dans une unité d'hébergement qui est loin du service où on est. Donc, ça veut dire en amont, la veille, on a fait une liste des personnes en précisant bien dans quelle cellule ils se trouvent, et voilà, qui va être diffusée. Il y a des surveillants qui, à l'heure dite, doivent leur ouvrir la porte, ils doivent venir jusque chez nous. Et ça, ce n'est pas toujours gagné. Parce qu'il faut savoir que ça s'appelle un mouvement quand ils viennent chez nous. Et que des mouvements, il y en a plein. Il y a ceux qui vont faire du sport, il y a ceux qui vont au médical. Donc le surveillant, il a ouvert là, mais il a oublié là. Voilà. Il y a un moment de battement avant qu'il soit là. Et ce n'est pas gagné qu'ils soient tous là, parce que peut-être qu'on leur a fixé un rendez-vous ailleurs ce jour-là. Donc c'est vrai qu'Alexandre a dû aussi beaucoup s'adapter. On n'a pas pu lui garantir tous les jours d'avoir tout le monde à l'heure.
Alors peut-être revenir à votre expérience, Alexandre, sur... on a compris, vous ne voulez pas d'une résidence, d'une micro-résidence de 24 heures, mais cette immersion beaucoup plus longue. Qu'est-ce que vous attendiez aussi du contenu de la résidence avec les détenus ? Là aussi, vous aviez un projet assez personnel.
Oui, d'abord, il y avait quelque chose quand même de très égoïste au départ, hein, ouais. Qui était avoir la possibilité de passer cette porte, d'y rester suffisamment longtemps pour avoir le sentiment de comprendre un peu quelque chose. La réalité, c'est qu'on ne comprend pas vraiment. On en discutait tout à l'heure avec Alain Mascaro, qui lui aussi a enseigné en prison. En réalité, on peut rester plongé à partir du moment où on sort le soir. L'expérience, on ne la saisit pas vraiment. Mais il y avait quelque chose, effectivement. Moi, j'avais un projet de roman qui est en cours d'écriture, qui devait se passer, enfin qui se passe ou qui se passera si un jour j'en vois le bout en prison. Et donc là, il y avait la possibilité de voir vraiment ce que c'était. Voilà, donc il y avait quelque chose de effectivement un peu de vampirique presque. Et puis, il fallait quand même qu'il y ait un projet. Enfin, il fallait qu'il y ait quelque chose. Et puis, j'avais beaucoup discuté avec des gens qui ont fait des ateliers en prison. Ça se fait quand même beaucoup, comme le disait Laureline. Une journée, une demi-journée, etc., où finalement on est confronté à un public, on lui fait écrire des choses, on lui fait lire à la fin, etc. Bon, c'est très bien parce que ça a une fonction évidemment un peu cathartique pour eux. C'est une très bonne chose. Moi, j'avais vraiment envie qu'on essaye de construire quelque chose, de construire un vrai projet. Le fait d'avoir 15 jours, pensais-je naïvement, ça va me permettre, ça va me laisser le temps de fabriquer quelque chose réellement. Et le projet qui a été immédiatement approuvé avec beaucoup d'enthousiasme par les équipes d'Eton était de construire un roman ensemble avec des détenus. L'idée n'était justement pas de les faire gratter, de les faire écrire, mais ce qui permettait aussi d'avoir des publics très variés, dont certains qui écrivaient mal ou peu, ou pour certains c'était inhibant. Là, il n'y avait pas de problème, tout passait par l'oral, et on a essayé de construire une trame romanesque, puis ensuite de la détailler, etc. Donc ça a été... Voilà. L'idée était donc d'écrire un roman ensemble et, si possible, d'arriver au bout et j'espère un jour de le faire publier. Parce que ça, ce serait assez extraordinaire.
Votre rôle, c'était d'aider à accoucher de la trame, recueillir, de collecter.
Oui, alors mon rôle, c'était... je suis évidemment comme con, j'allais dire. Enfin, je suis arrivé avec des idées, ce qui était complètement absurde. Et en même temps, je savais bien que finalement, ce qu'il fallait, c'était les mettre, eux, dans le rôle de sachant. Moi, je n'avais aucune connaissance de la prison. C'est eux qui pouvaient me dire, qui étaient capables de me dire qu'est-ce que c'est un roman en prison, quels sont les événements, quels sont les rouages romanesques qui se nouent et se dénouent à l'intérieur d'une prison. Moi, j'en sais rien. J'ai regardé des séries télé, en gros, et des films. Et je me suis rendu compte qu'avec les séries télé et les films, j'étais assez loin du compte. Donc vraiment, je les ai mis au cœur. C'est eux qui m'ont raconté. C'est eux qui m'ont dit, on peut faire ci, il y a ça. Enfin, je veux dire, le premier jour, on est parti sur... J'aurais dit, qu'est-ce qui peut se passer en prison ? On m'a dit, avant-hier, il y a un type qui est mort d'overdose dans sa cellule. Je dis, on va peut-être commencer avec ça. Et puis, en fait, ça s'est modifié, etc. Mais ouais. Voilà. Et donc, ce qui est devenu pour moi très important, c'est qu'ils soient vraiment moteurs et que ce soit eux qui soient mis en position, encore une fois, de sachant. C'est eux qui avaient l'expérience, c'est eux qui avaient la matière pour écrire le roman. Et je crois qu'ils l'ont très vite compris. Ça a libéré la parole très vite et ça a été extraordinaire.
Alors, par contre, ce qui n'a pas été extraordinaire, c'est le Covid.
Ah, ça, c'était carrément chiant même.
Qui fait que vous avez fait une première semaine de résidence à l'automne 2020.
Oui.
Et vous êtes revenu un an après. Et ça complique quand même les choses.
Ah ben oui, ça n'a pas simplifié en effet. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique extraordinaire avec un groupe de 6 détenus. Vraiment, la dynamique était folle. Et puis, à peine rentré de la résidence, tout s'est refermé. Et ça n'a pas été possible de retourner à Eton pendant toute une année. Et alors évidemment, Dieu merci, j'allais dire, les effectifs avaient fondu. C'est-à-dire que sur le groupe de 6, 4 étaient sortis. Donc ça casse un peu la dynamique, évidemment. Mais moi, je suis plutôt content pour eux. Et en même temps, j'ai revu 2 des détenus, puis il y a un troisième qui est venu s'agréger un an après. Et ce que j'ai senti, c'est beaucoup d'envie encore, qui s'était resté intact. Ça, c'était assez surprenant. Je me disais, bon, c'est passé, quoi. Et en fait, non. L'envie était là, l'enthousiasme était là, les idées étaient là, la parole s'est libérée à nouveau, comme si on s'était quitté la veille. Enfin, c'était vraiment très fort. Alors, on a perdu de l'effectif, ouais. Mais le projet reste vivant.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux semaines de résidence pendant l'année ? Est-ce qu'il y a eu continuité d'une communication entre vous et les détenus ? Qu'est-ce qui s'est passé au sein de la prison ? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose qui maintenait une forme de continuité ?
On a essayé de garder un peu le lien quand même. On m'a envoyé, l'équipe de l'ULE m'a envoyé des textes qu'ils avaient écrits, des choses, etc. Mais malgré tout, tout ça était assez lâche. Hein. Enfin, non seulement on était enfermés chacun chez nous, vous avez bien compris que c'est très compliqué de communiquer avec les détenus. Moi, je ne pouvais pas communiquer avec eux directement.
C'est important de le dire, on ne se rend pas compte.
Qui envoie un courrier. Ouais. Jocelyne expliquera mieux que moi, mais il y a quand même beaucoup d'entraves à la communication. Donc, on a gardé un lien. On a gardé un lien avec Jocelyne, avec Marie-Pierre qui est là. Mais bon, c'était vraiment histoire de dire qu'on garde le lien parce qu'on veut que le projet reste vivant. Concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Ouais.
Alors, octobre 21, je crois. Donc, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?
Et maintenant, que vais-je faire ? Bah, écoutez, moi, ce que je voudrais, mais on est en train d'en discuter, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse mettre en place des rendez-vous réguliers avec les détenus. C'est-à-dire que moi, je me rends à Eton, on va voir si c'est possible, pour les faire avancer, en fait, pour arriver au bout. C'est-à-dire peut-être les voir tous les deux mois et entre-temps les faire travailler et puis pour aller au bout du projet. Parce que là, maintenant, on ne peut pas reculer. Ils ont écrit, les deux détenus restants qui étaient là de la première salve ont écrit à Jocelyne. Ils sont motivés comme jamais. C'est un bol d'air pour eux. Et puis, voilà, ça les tient. Il y a toujours un enthousiasme. Donc, je ne vois pas comment on peut s'arrêter là.
On ne peut pas s'arrêter.
Non, on ne peut pas.
Alors, peut-être revenir en élargissant un peu les questions. Moi, j'entends bien dans ce que vous racontez que cette action culturelle en prison, artistique, on nous pose la question dans l'intitulé de ce débat sur les enjeux de la culture et de l'art en prison. Moi, j'entends bien qu'il y a beaucoup de désirs, certainement, chez les détenus. Beaucoup de mobilisation des personnels, il y a des artistes qui ont envie d'y aller. Mais peut-être, j'aimerais demander peut-être à Laureline de nous expliquer quelles sont les contraintes fortes. On a compris la question du temps, la question de la, des allers-retours, enfin, de ceux qui s'en vont, de la permanence, de la difficulté peut-être à mobiliser les détenus. Peut-être un peu un regard un peu objectif et critique éventuellement sur ses limites à l'action culturelle en détention.
Alors, vaste question. Ouais, oui, je m'en vais.
Balance.
Non, mais je les ai tellement pratiquées, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en détention, tout est contrainte. Tout est contrainte. C'est-à-dire que moi, je fais souvent là, un peu une zone tampon. On a beaucoup parlé d'adaptation. Ouais. Je suis l'adaptation incarnée, souvent, entre un artiste, quel qu'il soit, un auteur, un plasticien, un réalisateur, voilà, c'est les artistes, les partenaires, et l'univers carcéral, les contraintes qu'elles impliquent, que ça implique. Et donc, les artistes ont souvent... Ils viennent avec, on en a parlé, beaucoup d'envie, des idées, beaucoup d'intentions. Et on se frotte très vite quand on discute un petit peu. Souvent, j'ai un entretien qui fait 1h30, voire 2h avant avec l'artiste pour déjà identifier ses intentions, savoir ce qu'il sait d'un établissement pénitentiaire. Souvent, on déconstruit 2-3 images qu'on a vues dans les films et les séries. Non, ils ne sont pas en tenue orange. Non, ils ne mangent pas tous dans un réfectoire. Voilà. C'est des petites choses qu'il faut toucher du doigt, en tout cas avant d'y mettre les pieds. Et donc de parler de toutes ces contraintes. Et ces contraintes, elles sont dès qu'on est devant l'établissement, c'est-à-dire les portes. Donc pour franchir les portes, bah, il faut une autorisation d'accès. Pour avoir un accès, il faut avoir des papiers d'identité à jour, de préférence, parce qu'on peut avoir des surprises. On fait rentrer souvent du matériel. Donc le matériel est soumis à validation. Donc premièrement, moi, j'examine ce qu'on nous propose. Ensuite, je vois, ah non, ça va pas être possible. Ça, il faut attendre une réponse. Donc ça, je vais essayer. Ça, je peux te le mettre à disposition. Voilà, c'est des choses qui prennent du temps dans les échanges. En plus de ça, donc on a aussi la partie administrative. Hein, donc je parlais de convention. Voilà, ça se signe, ça se discute. Les parties financières, évidemment, puisqu'il vaut mieux être d'accord avant. On a toute la contrainte aussi on signe une charte quand on entre en détention, donc il faut bien la lire et savoir à quoi on s'engage quand on met les pieds en établissement. Donc les conditions de sécurité, comment se comporter avec une personne détenue, garder une certaine distance. Voilà, on peut pas se permettre d'avoir une trop grande proximité. Alors j'explique souvent qu'un artiste qui vient sur une demi-journée ou quand on vient pour créer du lien et de l'échange, c'est différent, on va dire, qu'un professionnel qui doit, sur le long terme, garder cette distance. On a la contrainte donc ensuite du lieu. Et donc, il y a des systèmes de sécurité qui sont en place. Donc, on a toujours sur soi une alarme, ce qu'on appelle un API. Donc, bon, voilà, il faut savoir à quoi ça sert, hein, en cas de problème. Je touche du bois, j'ai jamais eu à m'en servir, hein. mais c'est arrivé.
J'ai pas compris comment l'utiliser, donc ça aurait...
Mon Dieu.
J'ai fait tomber, ça marche.
Voilà, il y a un bouton rouge. mais voilà, ça fait partie des petites choses. On est aussi, en tant qu'intervenant extérieur, donc identifié avec un badge. Hein, en fonction de la couleur de son badge, sur l'établissement, est-on notamment, on ne va pas accéder aux mêmes parties de l'établissement, encore une strate. Et après, il y a évidemment donc toute la partie préparation où là, c'est moi qui vais temporiser les contraintes, c'est-à-dire les salles. On parlait de la salle de l'ULE. C'est heureusement, en fait, qu'on arrive à travailler ensemble. Sinon, effectivement, il y a des activités que je ne pourrais pas mettre en place sans avoir cet espace. Les établissements pénitentiaires, selon leur date de création, n'ont pas tous été pensés avec un espace d'activité. En détention, on appelle ça les activités, donc elles sont pas uniquement socioculturelles. Hein.
Par exemple, je posais la question, quand vous accueillez des œuvres d'art du musée, vous avez un lieu pour ça ?
Eh ben, on l'a fait dans la salle de classe, ouais. Que ce soit à Chambéry ou à Eton. Hein, mais on l'a aussi fait dans ce qu'on appelle la salle polyvalente, qui est un ancien gymnase qui résonne énormément, donc qui est très désagréable à utiliser. Donc tout ce qui est concert, par exemple, parce qu'on fait aussi des concerts, c'est invivable de faire une formation ou de faire de la médiation ou un concert dans ce type d'espace. Mais voilà, on n'a pas toujours le choix. On a un gymnase aussi pour le sport, mais donc ça veut dire qu'on supprime une demi-journée de sport pour faire un concert ou une rencontre. Donc le sport, c'est assez primordial en détention. Hein, ils sont souvent très demandeurs d'activité physique. Ils ont besoin de se dépenser. Donc voilà, supprimer le sport pour la culture, voilà. Avec le Covid, on a touché du doigt le côté essentiel de la culture. On est très clairement passé en bout de course. Alors, c'est déjà le cas en détention de façon générale. Hein, la culture, c'est vraiment dans une journée d'un surveillant en détention, la culture, c'est vraiment ce qui vient en dernier. dans sa tête, en tout cas, le matin, c'est sûr que d'appeler les gars pour les activités, c'est toujours le truc en plus. Alors, il y en a qui sont facilitants, et heureusement, voilà, et là, il me manque un tel pour telle activité, attends, je vais te le chercher. Alors, c'est beaucoup de négociations, d'adaptabilité en permanence.
Alors, concrètement, Alexandre, par exemple, dans une journée, tu avais combien de temps avec les détenus ?
J'avais 3 heures l'après-midi.
Donc, le cadre.
C'était le cadre, oui, 13h30, 16h30. C'était bien déjà.
Bah, c'est souvent intense, les échanges aussi. Ouais, c'est un milieu qui sollicite beaucoup. C'est un milieu qui est bruyant. Voilà, les portes, elles claquent, elles brûlent. Les surveillants, ils ont tous des gros trousseaux de clés qui font beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui circulent aussi. Alors, ça dépend des tailles des établissements, parce qu'on a deux établissements. Chambéry qui est beaucoup plus petit, et puis Eton qui est beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de personnes. Donc c'est des univers qui sont souvent un petit peu perturbants au début, Les détenus eux-mêmes le disent au début, alors c'est dans une autre mesure évidemment, mais les arrivants ont ce qu'on appelle le choc carcéral. Voilà, quand c'est leur première fois en détention, c'est un temps, ils ne sont pas tout de suite confrontés à la population pénale. Ouais. Ils ont un petit temps de au moins une semaine où on leur présente les différents services, où on leur explique ce qui va leur arriver, etc. Mais bon, évidemment, ça n'empêche pas voilà, la confrontation à ce milieu qui est difficile. Et oui, les contraintes de temps. Alors oui, il faut savoir qu'une personne détenue doit être en cellule pour manger à 11h30 et à 17h30. Donc pour caler une activité là-dessus, après il y a aussi, donc, on parlait des mouvements, donc il faut intercaler les mouvements pour les activités en même temps, en parallèle des autres, pour ne pas générer des mouvements supplémentaires. Il faut aussi respecter les roulements de service des surveillants. Donc ils prennent leur service à une certaine heure, ils quittent leur service à une certaine heure, quatre fois par jour en fait. C'est par demi-journée. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à respecter et qu'on ne voit pas forcément.
Oui, c'est vrai que ce que tu disais, rien que sur le mouvement, qui est d'aller d'un point A à un point B, c'est extraordinairement compliqué, puisque comme les mouvements ne peuvent pas se croiser, c'est une espèce de casse-tête. Et donc, pour faire 200 mètres, ça peut être l'horreur. Et donc, voilà, il est arrivé que les détenus arrivent en retard parce que... je ne sais pas quel mouvement avait lieu avant et qui était prioritaire ou qui était passé avant. Enfin bon, ça effectivement, c'est des choses qu'on n'imagine pas. La prison est grande, mais elle n'est pas immense non plus. mais c'est vrai que le cheminement est très long, quoi.
Je reviens, si vous permettez, Laureline, sur la construction des projets artistiques et culturels. On a compris que c'est très cadré, il y a des conventions, des chartes. Est-ce que vous êtes saisi de demandes de la part d'artistes qui n'aboutissent pas, qui ne peuvent pas aboutir pour diverses raisons? Est-ce qu'il y a des échecs de montage de projet?
Oui, ça arrive, évidemment. Alors, j'essaye de filtrer un maximum, notamment ce fameux entretien d'une heure et demie, deux heures, il est là pour ça aussi, surtout quand c'est la première fois en détention, parce qu'il faut analyser les intentions. Il faut être vigilant, parce qu'il ne faut pas y aller pour de mauvaises raisons. Parce que ce qu'on dit souvent avec mes collègues, c'est que on vient pas en détention pour venir aux zoos. Voilà, c'est clairement, il faut être vigilant à ça. On vient pour de l'échange, pour créer quelque chose, d'être dans la création. Donc voilà, ça c'est très important. Et puis il y a évidemment les contraintes d'avoir un statut spécifique qui puisse correspondre à l'administration. Donc il faut pouvoir être facturé correctement via le fameux Chorus Pro, ce qui est un système.
Ce cher Chorus Pro.
Voilà, ça a été un système de règlement des intervenants dématérialisés, qui est commun à tous les services publics maintenant. Donc il faut être en capacité en face de répondre à ça déjà. Et puis il faut être, faut avoir un statut, être associatif, avoir un CIRET, Donc ça déjà, ça m'a posé des
ça filtre.
Ça peut filtrer, voilà. et puis il faut surtout, moi, un filtre que je m'impose aussi en tant que professionnelle, c'est d'avoir quelqu'un qui est en capacité d'absorber le milieu. Voilà, parce que quelqu'un qui va être trop fragile, ça va être difficile, ou alors il va falloir que j'accompagne beaucoup plus, différemment, peut-être qu'on fasse une deuxième réunion, une visite. Enfin voilà, ça s'amorce pas du tout de la même façon. Parce que le choc carcéral, il est aussi valable pour quelqu'un qui rentre pour la première fois en détention et je peux pas laisser quelqu'un en autonomie une première. Voilà, on ressort différent.
Peut-être Alexandre tout à l'heure. Oui, allez-y.
Moi, je voulais peut-être rajouter quelque chose. C'est qu'il faut prendre en compte aussi dans la difficulté, je pense, la population qui est là. Parce que vous, par exemple, vous allez au festival du premier roman, vous mettez ça dans votre agenda, puis vous y allez. Mais là, on a des gens qui ont des tas de problèmes dans la tête, des tas de choses. Donc, ils s'inscrivent à une action culturelle. Alors, il y a plusieurs raisons. On sort de la cellule, ça fait du bien. On est intéressé par ça. Et puis, au moment où se passe l'action, il y a quelque chose de plus intéressant. Par exemple, il fait beau, on va se promener dehors. C'est la réalité. Il y a un procès qui approche. Et là, on a la tête qui tourne en boucle et on ne peut pas y aller. Le temps, il est aussi vécu différemment. Moi, j'en ai parlé avant de venir là avec les détenus qui m'ont dit, je leur dis, mais par rapport au temps, à la contrainte du temps, Il dit, bah, le temps, ouais, pour écrire, on a tout le temps qu'on veut, là, finalement, par rapport à quand on est dehors, on a tout le temps qu'on veut. Mais on peut ne rien en faire. Et souvent, ils me disent que ceux qui peuvent organiser leur temps et aller à des actions culturelles, des choses, c'est des gens qui étaient déjà organisés dehors, qui déjà avaient un agenda et se font un agenda. Parce que sinon, on peut très vite passer son temps devant la télé. Ça se dilue et on ne sait pas comment passe le temps, mais on est là et on se laisse aller. Et donc, alors, je ne vais pas casser l'ambiance, mais il arrive qu'on fasse des actions, Laureline le sait, on a 15 personnes inscrites, il y a un film avec un débat, un auteur qui vient, c'est formidable, et il vient 3 personnes. Parce que les contraintes matérielles, enfin de déplacement, parce que la personne, elle avait autre chose dans la tête, parce que... Et ça, c'est... Pour nous, quelquefois, c'est très frustrant, mais en même temps, ça fait partie. On ne peut pas se mettre à leur place de ce qui se passe.
Peut-être, Alexandre, je voulais vous questionner sur ce dont parlait Laureline, sur la bonne distance par rapport aux détenus. Comment est-ce que tu as géré ta relation, justement, aux détenus ? Ça s'est fait
pas géré.
Naturellement.
Je n'ai pas géré, ouais, en fait. Je pense que du fait que je me mette en position d'écoutant plutôt, ouais. ça a dû jouer, je pense, dans la relation. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu tellement de rentes d'observation. Ils ont été très naturels avec moi tout de suite. J'ai pas eu besoin, je n'ai pas ressenti le besoin, moi, de mettre de la distance. Parce qu'eux ont gardé la distance. Une espèce de... Alors évidemment, je dis, moi je suis en tant qu'écoutant, mais j'arrive, je suis écrivain, éditeur, la barrière, elle est invisible, mais elle existe quand même dans leur esprit, en réalité. Et donc, il y avait à la fois du respect qui était là, évidemment qui était réciproque, bien sûr, et puis une espèce de sympathie comme ça qui s'est construite, qui ne s'est pas construite, qui a été quasiment immédiate. Avec, il se trouve que j'avais un groupe qui était très cohérent, avec des gens qui étaient très bavards, d'autres qui l'étaient moins, mais qui avaient chacun des qualités différentes, qui apportaient chacun quelque chose de différent, ce qui fait que la parole circulait bien, même parfois. Alors j'ai pris un audio et même parfois je trouvais que je parlais un peu trop, mais en tout cas, la parole circulait bien. Et du coup, la question de la distance ne s'est jamais posée. Je me l'étais posée, moi, en amont. Dire, qu'est-ce qui se passe ? Alors, évidemment, on vous donne un API. Moi, j'ai lu les avertissements. Je peux vous assurer, quand vous lisez les avertissements avant d'entrer dans une prison, vous n'avez pas du tout envie d'entrer dans une prison.
C'est comme les notices pharmaceutiques.
Voilà, c'est comme les notices pharmaceutiques. Vous allez, juste décéder à un moment, vous ne savez pas quand. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est...
C'est pour éprouver le courage.
Bon, alors, bref. Donc, c'est vrai que la question s'était posée. Et puis... Finalement, alors je suis très bien tombé. Après, on va pas se mentir, il y a eu une sélection de ces détenus. L'équipe de l'ULE les connaissait. Moi, j'ai dit au-delà de 6, ça me paraît ingérable. Donc, il y a 6 personnes qui sont venues, qui avaient une appétence, qui avaient quelque chose. Alors. Qui avait une appétence, qui disait aussi, écoutez, franchement, nous, dans notre dossier, ça fait bien. Non, mais ils sont tout à fait honnêtes. C'est vrai que dans le dossier, ça fait bien. mais en revanche, voilà, ils avaient quand même été sélectionnés. Et, voilà, moi, je me suis retrouvé face à un groupe qui fonctionnait très bien, qui était sympathique, mais pas familier. Enfin, voilà, c'était formidable, quoi. C'est un peu le bisounours, hein, ce que je raconte, c'est terrible, mais c'est ce que j'ai vécu.
Bah, c'est aussi le rôle de quand on accueille quelqu'un, c'est d'être, de minimiser les risques, hein, parce que ça fait partie des enjeux aussi pour nous. Hein. Et comme tu dis, effectivement, il y a eu une présélection qui a été faite, déjà par le SPIP, et puis après par les enseignants qui avaient déjà orienté des profils spécifiques, qui avaient une appétence, et voilà. Et la différence comparée à une autre activité qu'on peut mettre en place sur, je ne sais pas, une rencontre, une médiation, un concert, tu es venu dans une intention d'écoute Et ils l'ont tout de suite su. Enfin voilà, on avait balisé ton arrivée. Et puis voilà, cette intention d'écoute, elle est très importante souvent pour la plupart du temps, toujours d'ailleurs, pour les personnes détenues, parce que dans une activité lambda, il y a toujours ce temps. Je préviens souvent les artistes de dire, il y a toujours ce temps de latence où chacun jauge l'autre et de savoir si la personne en face vient en détention pour des raisons curieuses ou s'il y a une notion de respect, d'écoute justement. Donc je pense qu'effectivement toi t'es venu avec ce positionnement qui était clair tout de suite de je viens chercher ce que vous voulez me dire. Et une autre activité, on vient plutôt dire bah voilà, moi je vous présente ce que je fais, je vous propose de participer, voilà. Donc c'est pas tout à fait la même intention de départ, et donc il y a toujours ce temps de jauge où chacun évalue l'autre et où le respect et la connivence se fait. Il y a évidemment donc l'état du groupe aussi qui joue beaucoup, hein, si le groupe a une cohésion ou non. Voilà, s'il y en a un qui est plus bavard que les autres, plus agité que les autres, qui, pour toutes les raisons que Jocelyne a évoquées également, voilà, les parloirs, la famille, les affaires, etc. Donc voilà, je pense que le positionnement n'était pas tout à fait le même. Et c'est ça qui était intéressant.
Est-ce qu'il y a des outils d'évaluation, enfin des moyens qui vous permettent de dire les faits qu'a l'action culturelle sur les détenus? Comment ça se passe?
Ah bah, ce sujet également.
Parce que c'est ça la question, c'est aussi de savoir quels effets ont ces actions.
Alors il y a deux facettes de ça. Il y a ce que l'administration voudrait pouvoir effectivement quantifier. On aimerait bien pouvoir quantifier ça, les résultats de ce qu'on fait. Alors on peut donner des données chiffrées avec, on dit, voilà, il y a eu tant d'inscrits, tant qui sont réellement venus, voilà. Et moi, je trouve pas ça très judicieux, parce que, comme je dis souvent, l'intérêt de la culture et de donner accès à la culture, c'est pas de quantifier, on travaille avec de l'humain. Et donc, travailler avec de l'humain, c'est des émotions, c'est des échanges, on plante des graines, comme je dis souvent, et elle prend ou elle prend pas, et elle pourrait très bien prendre... pour deux personnes dans un groupe de 20, comme elle peut prendre sur les trois qui seront présents ce jour-là. Donc ça n'a pas de sens pour moi d'évaluer les retombées, parce qu'elles pourraient aussi très bien avoir lieu demain, sur l'instant T ou dans 10 ans. Voilà. Parce que le parcours carcéral peut être plus ou moins long, comme il peut y avoir des hauts et des bas voilà, dans la vie. Donc... quand on fait une permission de 3 jours sur un festival, ouais, on ne va pas avoir le même impact à mesurer que sur 2 heures d'échange le temps d'une rencontre. Oui. Voilà. Donc ça, pour moi, ça ne se quantifie pas. Il y a des déclics qui se font, d'autres qui ne se font pas.
Mais je crois que c'est vrai pour toutes nos expériences humaines. On ne se rend pas compte
tout
de suite des effets et de ce que ça nous apporte. Hein. Je crois que c'est assez général. Peut-être on va passer un micro dans la salle si vous souhaitez intervenir, poser des questions, des pressions. Je crois qu'il y a des collègues de Laureline et de Jocelyne qui sont là. Si elles veulent apporter des compléments de parole, c'est tout à fait possible.
Je peux même les dénoncer et tout, s'il faut. Non ?
Oui, il y a une question là-haut.
C'est une question pour Alexandre. Moi, j'ai souvenir, depuis plusieurs éditions du festival, d'avoir rencontré ou discuté avec des auteurs à l'issue d'une rencontre, soit à Eton, soit à la maison d'arrêt. Et souvent, on les a récupérés différents d'avant leur entrée dans la prison. Et souvent très émue et très touchée de ces temps-là, même des auteurs qui avaient l'habitude de plein de rencontres. Certains nous ont dit, même des années plus tard, qu'ils n'avaient jamais oublié ces moments-là. Pour chacun, des raisons différentes d'ailleurs, soit ce que vous parliez du choc carcéral, soit d'une vérité finalement qui avait été dite dans un autre, d'un regard différent. Soit de l'émotion de dire « moi je suis sortie, ils y sont encore ce soir ». Il y avait tous ces vécus-là. Et Alexandre, du coup, c'est peut-être un peu personnel comme question, mais finalement vous disiez tout à l'heure que vous vouliez tourner puis rentrer dans la prison. Alors en sortant, qu'est-ce qui ça a donné?
Alors étant totalement insensible, il ne s'est évidemment absolument rien passé. Non, il s'est passé tout ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a le choc, mais le choc, il est quand même amorti. Hein. Il est d'autant plus amorti que, parce que quand on vient y passer 2 heures, bon, ben voilà, on y a passé 2 heures ensemble, mais quand on y passe 15 jours, on entre et on sort, on entre et on sort, on entre, et donc on sait qu'on sort. Et ça amortit quand même beaucoup le choc. Il y a évidemment, alors il y a un peu les histoires personnelles, mais elles n'ont pas été très présentes. Moi, je ne demandais pas aux détenus pourquoi elles étaient là. D'ailleurs, l'immense majorité ne me l'a pas dit, et c'était très bien comme ça. Moi, en fait, je suis sorti avec un sentiment de c'est terrible, hein, parce que c'était un sentiment de bonheur et d'admiration pour ces personnes qui avaient... Enfin, j'étais venu écouter un savoir, et il y avait un vrai savoir. Il y avait un vrai savoir de la prison. Il y avait un vrai savoir... c'était merveilleux. Il y avait un savoir technique de la prison, c'est-à-dire que ces gens-là se débrouillent pour faire des gâteaux, des réchauds, des... Enfin... Ils ont une espèce de sens de la bricole incroyable pour se passer des choses d'une cellule à une autre, alors qu'évidemment, ils n'ont pas le droit. Il y a tous ces savoirs techniques comme ça qui se passaient. Enfin, voilà, il y a une intelligence de la misère, une intelligence de l'enfermement que j'ai trouvé incroyable. Il se trouve que certains étaient là depuis longtemps. Il y en avait un, donc, comme je disais, un qui aurait pu faire un guide du routard de la prison, qui avait fait 18 centres pénitentiaires en je ne sais combien d'années. Enfin, bon, des trucs comme ça. Et malgré tout, quand ils étaient là, ils étaient là. Enfin, ils restaient dans le partage. Il n'y avait même pas besoin de cadrer. Alors si, il y avait besoin de cadrer de temps en temps, parce qu'effectivement, il racontait avec beaucoup d'envie et beaucoup de vigueur, de vivacité, leur expérience de la prison. De temps en temps, il fallait revenir en disant, bon, ben là, ça rentre pas dans le scénario. Mais il y avait quelque chose de je ne m'y attendais pas, il y avait quelque chose de très lumineux là-dedans. Et moi, je suis sorti avec ça, avec... de l'admiration, avec une espèce de je sais pas, de sentiment, je sais pas, appeler ça de l'amour, enfin quelque chose. J'ai été complètement rempli par ces rencontres-là. En dehors des... Voilà, effectivement, les cas sont tous terribles. Même quand on ne sait pas pourquoi ils sont là, on se doute un peu. Et puis voilà, on sait aussi que c'est les conditions sociales qui les ont amenés là la plupart du temps, enfin en tout cas très souvent. Tout ça, j'ai envie de dire, c'est le côté, voilà, c'est la société, c'est l'image qu'on en a, etc. Mais là, on est en face d'individus qui ont une vraie puissance de vie, même enfermés entre quatre murs, quoi. Et ça, c'est énorme.
Voilà. Quelle insensibilité, Alexandre.
Oui, je voudrais poser une question sur le nombre d'enseignants et l'organisation du travail des enseignants. Est-ce que les cours ont lieu, enfin le travail a lieu tous les jours, d'une façon régulière? Voilà. Puis l'autre question, c'était, est-ce qu'il y a une initiation à la musique? Vous avez parlé beaucoup de plusieurs, mais pas de la musique.
Bon, pour la musique, Laureline en parlera. Nous, on est 3 enseignants à temps plein. Et puis, pour des enseignements complémentaires, il y a des gens qui viennent faire des heures supplémentaires. On fonctionne, bon, c'est peut-être pas très logique, mais comme une école, avec les vacances scolaires. Donc, nous, on part en vacances, mais pas eux. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de listes d'attente. Nous, on essaye de répondre à un maximum de choses. Alors, il faut essayer de faire l'équilibre entre répondre aux besoins des personnes et qu'ils aient un minimum d'heures dans la semaine et répondre à un maximum de gens. Donc ça, c'est l'adaptation permanente, c'est-à-dire que ce ne soit pas du saupoudrage, qui a un contenu assez, assez intéressant, et en même temps, pouvoir donner au maximum de personnes. Voilà.
Peut-être un complément, c'est combien d'élèves en ce moment, combien de gens en formation au total, par exemple, au centre pénitentiaire d'Eton?
En ce moment, c'est à peu près une centaine de personnes.
Voilà. D'accord.
qui tourne.
Sur combien de détenus?
Sur 520.
520 en ce moment. Oui.
520 en ce moment.
Ouais, c'est pas mal, mais d'accord.
Alors, c'est plus d'habitude parce qu'on a. Enfin, là, ça va changer, mais on avait des contraintes par rapport au Covid d'avoir des demi-jauges d'élèves parce qu'on a des petits groupes, on n'a pas des grandes salles, donc ça va jusqu'à 10-12 personnes en temps normal. Là, on était réduit à 5 pendant jusqu'à il y a un mois ou deux.
Et vous dites comme l'école, c'est-à-dire vous avez il y a du français, des maths dans la,
oui,
dans la même journée en fait.
Oui, oui, oui. Ça dépend des demandes. De s'il passe un examen, il va y avoir un plus gros volume horaire. Si c'est vraiment, il y a des gens qui veulent juste faire un peu de remise à niveau des maths, du français, voilà.
Pour la partie musicale. alors c'est vrai que j'ai parlé que de projets un peu majeurs dedans, dehors, que j'avais pu mettre en place, mais en fait des projets, il y en a 20 à 30 par établissement. Je suis sur deux établissements en même temps, Chambéry et Thon, donc il y a une soixantaine de projets par an. Donc je ne vous les énumère pas tous, donc j'ai préféré parler des pôles, mais effectivement en termes de musique, on a notamment à Thon donc, des cours de guitare. On a 5-6 guitares dans mon bureau. on a donc des concerts qui sont plus ponctuels. Et puis après, ça va être au fil de ce que les artistes peuvent me présenter. J'ai aussi eu des partenariats donc, avec la Cité des Arts, où notamment j'ai accueilli des adultes qui étaient en formation de chant lyrique, par exemple, accompagnés par une pianiste. Et ça crée des échanges qui sont très forts. Ils voulaient revenir là cette année, donc moi ils m'ont proposé des mineurs, alors je leur ai dit que non, que c'était pas possible, donc il faudrait repenser la question, mais voilà, tout est pesable sur le principe. Après, tout est question encore une fois d'adaptation. il faut être les rois de l'adaptation. Si on veut monter quelque chose, il faut comprendre les contraintes, parce qu'en fait c'est à nous de nous adapter. C'est jamais l'établissement qui s'adaptera à nous. Voilà,
mais qui assure les cours de guitare?
Et ben là, on a un intervenant, un professeur de guitare qui, au départ, était en détention pour d'autres raisons. Et puis, il m'a dit, ouais, moi, je donne des cours. Ah bon, d'accord, ok, on va voir. Discutons. Et souvent, c'est comme ça que les choses se font aussi. Voilà, c'est quand le relationnel se passe bien. Alors, c'est quelqu'un qui vient tout au long de l'année. Donc là, par exemple, c'est un partenariat annuel. Et là, il me faut quelqu'un. J'en ai que deux, des partenaires annuels. Donc j'ai une enseignante d'art plastique et un enseignant de guitare. C'est des gens avec qui il faut que j'ai une relation étroite. On sait vers où on va. Ils sont en autonomie. Parce que évidemment, je ne vais pas les suivre chaque semaine ou tous les 15 jours sur tout ce qu'ils font. Il faut que j'ai une conscience, qu'ils soient intégrés dans le fonctionnement de l'établissement et qui sache aussi donc s'adapter au quotidien, parce que c'est arrivé hein, qu'il n'y ait personne. Voilà, de faire un déplacement de 40 minutes pour aller jusqu'à Eton et on nous dit non. Voilà, aujourd'hui, c'est non. Et on n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça, malheureusement.
Merci.
D'autres questions?
Oui, moi, je voudrais savoir vos projets. Vous avez des appels à projets? C'est vous qui allez pêcher Alexandre parce que c'est votre copain? Comment ça marche?
J'ai mordu très vite.
C'est ça.
Le festival du premier roman et donc Lecture plurielle, on est en partenariat depuis plusieurs années. Donc, en général, je vais aussi vers les partenaires de confiance qui existent, qui me proposent toujours des choses intéressantes, de nouveaux artistes chaque année. Donc, moi, ça me permet aussi d'avoir un noyau dur solide, ouais, vraiment pour avoir des artistes de qualité aussi, parce que la qualité compte autant qu'à l'extérieur. Et après, oui, il y a des appels à projets. Moi, en tant que, l'administration pénitentiaire de la Savoie n'en fait pas. Par contre, effectivement, il faut ne pas hésiter à solliciter. Normalement, il y a des coordonnateurs socioculturels dans chaque département. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler le SPIP et dire que vous êtes intéressé. Après, il y a des appels à projets pour des financements plus que pour des projets eux-mêmes. Voilà. Donc, on va avoir des thématiques spécifiques qui vont être proposées en général aux alentours de la rentrée, octobre, septembre-octobre. Et puis, en fonction des projets qui sont déjà en cours, déjà élaborés ou qu'on va créer, ça va dépendre des échéances. On a aussi une commission spécifique entre la DRAC, la Direction interrégionale des services pénitentiaires à Lyon. Et chaque année, on peut proposer des partenariats spécifiques pour aider au cofinancement des projets un peu plus, de plus grande ampleur. Et après, moi, j'ai au niveau du département mes propres fonds que je répartis entre chaque établissement, entre chaque pôle, pour être à peu près équilibré. Pas de jaloux. Et puis après, voilà, j'ai toujours un catalogue de demandes. Je reçois des mails, je reçois des courriers. Il y a des gens qui viennent frapper à la porte du SPIP directement. Donc je ne manque pas de contacts. Et puis après, c'est propre aussi au réseau. Là, par exemple, je passe le relais à un collègue. Et donc, lui, il a son propre réseau. Il va aller chercher ses propres artistes aussi, ce qui l'intéresse de travailler. Parce qu'effectivement, comme je disais, on peut tout faire. Donc après, ça va dépendre des priorités de l'administration et puis évidemment des besoins des personnes détenues aussi, parce que c'est important aussi de recueillir leurs envies, de ce qu'ils veulent voir eux à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont envie d'exprimer. Quand on identifie des besoins et des tensions aussi, on va peut-être aller travailler sur des choses un peu plus spécifiques. Mm-hmm. Les projets collectifs d'accompagnement dont j'ai pas parlé parce que c'était pas vraiment la question, mais on travaille vraiment sur des axes vraiment très spécifiques, notamment la médiation animale par exemple. On va aller travailler sur comment on aborde ses émotions et comment on fait face à certaines d'entre elles et la relation à l'autre, etc. Et on va sélectionner les gens avec qui on va travailler.
Et j'en profite. Et quelle place pour les bénévoles vous avez?
Alors, les bénévoles, pour venir d'un milieu associatif, parce qu'effectivement, donc moi, j'ai été référente culturelle au départ au sein de l'ASDAS, donc l'Association de soutien et de développement de l'action socio-culturelle et sportive en milieu carcéral, qui existe toujours. Voilà, c'est un peu long, mais ils font un travail incroyable. Il y a une équipe d'une quinzaine de bénévoles. Et donc moi, mon rôle, quand j'ai pris le poste au sein de l'association, ça a été de fusionner donc l'association qui existait à Eton et l'association qui existait à la Maison d'arrêt de Chambéry. Et donc j'ai harmonisé toutes les pratiques culturelles. Et donc il y a du bénévolat possible auprès de l'association, avec qui je suis toujours très en lien. Et faut pas hésiter, ils sont toujours très demandeurs de nouveaux bénévoles. Donc si ça vous intéresse de découvrir le milieu carcéral, n'hésitez pas à faire appel à eux. Voilà.
Est-ce que vous auriez des témoignages de détenus ou de détenus libérés sur ce qu'ils ont fait, sur le bénéfice qu'ils en tirent, par exemple en prison, des réalisations de poésie, d'écriture, de romans, de musique, de quelque chose qui se voit et qu'ils peuvent... ou la peinture, ou qui peuvent nous dire, voilà, j'ai appris cela, et est-ce que une fois sortis, est-ce qu'ils avaient des témoignages qu'ils ont continué cela, vous voyez? Est-ce que, ensuite, dernière question, est-ce qu'un jour on pourrait imaginer qu'un détenu vienne à côté de vous et dire, j'ai fait ça, j'ai changé, je suis devenu, grâce à Alexandre, à Laurélie, et Jocelyne et bien d'autres, quelqu'un de différent?
Alors, la difficulté avec ça, pour la partie administrative, une personne détenue ou non, d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui sont suivies par la justice qui ne sont pas incarcérées, donc qui existent et qui sont beaucoup plus nombreux, ne sont plus... à partir du moment où la personne a été libérée, à moins qu'elle ait encore une peine en milieu ouvert à exécuter, la personne est libre et donc elle fait ce qu'elle veut. On n'est plus tributaire de ce qu'elle fait. Et alors j'ai quelques témoignages de personnes qui ont bien voulu et accepté de revenir vers nous, mais évidemment, comme on parlait de quantifier, ça, c'est un petit pourcentage de ce qu'on pourrait voir. Mais dans le cadre, par exemple, des expositions qu'on a pu faire au Musée des Beaux-Arts, on a une personne qui avait été libérée peu de temps après le projet, et donc qui a pu venir à l'exposition, et qui avait été très très touchée. Il nous avait fait un témoignage devant le public qui avait été bouleversant, sachant qu'en plus il était SDF, et donc le soir même, il n'était pas voilà, il n'avait pas de toit sur la tête. Donc voilà, on a des choses comme ça qui, quand eux le veulent, et acceptent de revenir vers nous. On a également un témoignage d'une personne qui avait commencé à faire des ateliers plastiques en détention, qui était là depuis plusieurs années, donc sur la maison d'arrêt de Chambéry. Et je sais que l'enseignante avec qui on avait travaillé, Sandrine Lebrun à la Cité des Arts, m'a dit, il est revenu. Et voilà, il est revenu, ça l'intéresse, et il travaille super bien, il fait des choses extraordinaires. Donc voilà, on a des petits témoignages comme ça qui parfois nous reviennent, mais notre travail, il n'est pas après, il est vraiment sur l'initiative de donner accès et de générer des choses. Mais après, malheureusement, c'est selon ce qu'ils ont envie.
Effectivement, on n'a pas tellement de lisibilité quand ils sont sortis. Moi, on a essayé, enfin, j'ai demandé avant de venir ici aux détenus ce qui retenait de leur expérience avec Alexandre. Donc, je ne sais pas, tu veux en parler ?
Je ne sais pas.
En tout cas, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient... Enfin, cette expérience, par exemple, je pense que ça les a... Enfin, ceux qui ont témoigné, là, de dire que quelqu'un leur faisait confiance. Alors, quelqu'un, effectivement, comme il disait, moi, je viens avec mon statut. Quelqu'un qui vienne de l'extérieur, qui ne les juge pas et qui leur accorde une confiance. Ils se sont sentis dans un milieu qui leur semble un peu hostile. Quelqu'un qui leur accorde une confiance et qui dit « Mais moi, j'ai envie de faire des choses avec vous et je compte sur vous ». Pour eux, c'est comme une. Ils m'ont dit, c'est une perche tendue, et là, on y va, quoi. On y va à fond.
Oui, moi, j'ai juste une petite anecdote concernant ça, disons. Donc, à ces histoires de dossiers. Alors, ça fait bien dans le dossier. Et donc, ils m'ont demandé de faire un petit courrier à ajouter dans le dossier qui va dans, je sais pas quoi, qui passe devant le juge, j'imagine. Enfin. Donc j'ai fait un petit courrier, ça m'a pris 5 minutes. Voilà, en disant ce que je pensais de ce qui s'était passé, de leur motivation, etc. Et puis, je leur ai donné dans une petite enveloppe, et puis l'un d'entre eux est un peu curieux, et donc il a ouvert une espèce de moment d'émotion, où il dit, en fait, quand on est ici, on nous fait jamais de compliments. Depuis que je suis là, c'est la première fois qu'on fait un compliment, et ça... C'était, j'avais l'impression d'avoir fait sa journée, si ce n'est sa semaine. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. C'est aussi des petites choses comme ça, au-delà de la petite graine, au-delà de... Il y a aussi des moments comme ça, de grâce, qui sont juste, qui sont valables pour l'instant. Mais en tout cas, ça marche aussi, quoi.
Oui, la détention efface beaucoup de choses qu'on pense acquises au quotidien. Ouais. Et c'est important aussi de remettre en avant ce genre de choses, parce que dans la vie de tous les jours, on se rend plus compte des petites choses, des petites attentions, des petites. En détention, c'est carré, c'est comme ça, c'est telle heure, les relations sont dures. Voilà. Alors des fois, il y a des moments d'échange, hein, que ce soit avec les surveillants, avec les enseignants, les différents services, et on est là aussi pour ça, heureusement. Mais ça reste un milieu difficile. Voilà, où la sécurité est prenante tout le temps. Et même entre eux, les relations sont toujours tendues, des rapports de force. J'aime bien raconter cette anecdote où on a remis à disposition des dictionnaires, voilà, il n'y en avait plus beaucoup, et j'ai remis à disposition des dictionnaires dans la bibliothèque, et tout d'un coup, c'est pareil, il n'y en avait plus. Et j'ai demandé donc à l'OXI, l'auxiliaire, la personne détenue qui travaille en tant que bibliothécaire dans la bibliothèque, je lui ai dit mais pourquoi tous les dictionnaires s'en vont ? Il me dit non, mais parce que ça fait bien d'avoir un gros livre sur l'étagère. Ah, d'accord. Donc on a rendu les dictionnaires en lecture sur place. Mais voilà, typiquement, ça symbolise plein de choses de... Il faut avoir la connaissance, il faut avoir la supériorité dans les rapports, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie.
Impressionné avec les livres, c'est pas mal, finalement. Hein?
Dernière chose. Je vous remercie de témoigner que vous êtes active, presque admiratif même, de personnes qui sont
pas très connus, pas très appréciés, des criminels, des voleurs, des violeurs. On ne les aime pas trop. Hein. Et vous, vous nous en faites des êtres humains. Et malgré leurs défauts...
C'est ce qu'ils sont.
C'est ce qu'ils sont.
Oui, oui, malgré leurs défauts que je oui, oui. juge pas. Hein, je ne suis pas juge. Mais vous non plus. Mais que vous savez que vous avez cette qualité de mettre en valeur chez des gens et de leur donner confiance. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y en a qui avaient écrit des romans ou des poésies, ou fait des peintures, ou fait des musiques. Dites-nous un peu.
On peut pas toucher vraiment ce qui a été produit, les productions qui viennent du milieu carcéral, mais il y en a évidemment, il y en a beaucoup qui écrivent des livres en détention. Vas-y.
Enfin, moi, j'anime aussi un atelier d'écriture à la prison. Et par exemple, cette année, je tiens à ce qu'ils participent à des prix littéraires, enfin des prix de... Voilà. Donc, il y a le prix Blaise Sandrars de la ville de Vannes. Et j'ai un détenu cette année qui a obtenu le deuxième prix. Voilà. Donc, il n'a pas pu... Vannes nous a dit, on vous attend. Voilà, il va y avoir un plateau de fruits de mer et les remises des prix. Donc, on n'a pas pu y aller. Mais il va recevoir un lot de livres. Et pour lui, c'est une immense fierté. Voilà. Et dans d'autres... Et ça, pour eux, c'est un retour. Et c'est pas quelque chose qu'on donne à un détenu. Là, c'est un prix à une vraie personne, quoi. C'est pas avec leur étiquette parce que ce qu'ils peuvent exprimer, c'est faut savoir que les sentiments sont tous exacerbés, les bons comme les mauvais. Et en atelier d'écriture, on en parlait l'autre jour, et bien, des choses qu'on peut faire dans un atelier d'écriture ailleurs, par exemple, je me souviens, on y va doucement, on attend que le groupe soit bien constitué, bien en confiance, parce que je me souviens, ça peut faire remonter des choses extrêmement violentes dans tous les sens du terme, de joie ou de douleur. Il y a ceux qui vont me dire non, moi là je vais pas écrire parce que si j'ouvre la boîte, si j'ouvre la fontaine, ça, je vais plus m'arrêter, quoi. Il y en a un hier qui m'a dit ce qui est difficile, c'est que ici les souvenirs se transforment en nostalgie. et c'est pour ça que c'est quelquefois difficile à exprimer.
J'aurais voulu savoir si les détenus en général fréquentent la bibliothèque, s'ils empruntent des ouvrages.
Alors la bibliothèque, c'est un des premiers accès à la culture en détention. C'est une des premières choses qui a été mise en place. Et c'est pas si vieux que ça, hein, l'accès à la culture en détention. Hein, c'est encore quelque chose d'assez récent. Il y a un texte de 2009 qui oblige chaque établissement à avoir une bibliothèque au sein de sa détention. Donc c'est pas si vieux. Alors ça existait déjà avant, hein, mais voilà, là il y a des normes, c'est obligatoire. Il y a des personnes détenues qui travaillent et qui sont bibliothécaires, c'est leur travail à temps plein. Donc oui, il y a une bibliothèque, elle est faite comme une bibliothèque à l'extérieur. En tout cas, c'est important qu'elle soit gérée comme à l'extérieur. On a des codes-barres, on a des cotations, on travaille avec des partenaires avec la bibliothèque municipale de Chambéry et départementale Savoie-Biblio. Voilà, pour qu'il y ait, en plus de ce qu'on a sur place, alors après ça dépend des surfaces, je sais qu'il y a beaucoup de variables sur les bibliothèques des établissements, mais on a la chance d'avoir une très belle bibliothèque au centre pénitentiaire d'Eton. Ce qui est compliqué sur Eton, c'est de les faire venir jusqu'à la bibliothèque. Encore une fois, c'est les mouvements, c'est difficile, mais il y a un accès obligatoire d'au moins, à minima, hein, je dis bien à minima 30 minutes par personne, une fois par semaine. Alors évidemment, nous on a des créneaux qui font plutôt une heure, on a essayé de répartir, d'équilibrer en fonction du nombre de personnes, parce qu'évidemment vous avez une bibliothèque dans chaque établissement, mais la maison d'arrêt de Chambéry a une centaine de personnes, ils sont 520, voilà. Donc il faut trouver de la place pour tout le monde. Mais voilà, c'est très important de donner accès à la lecture, c'est la base, on va dire, de l'accès culturel.
Et donc vous avez un partenariat aussi avec les médiathèques de Chambéry?
Oui, la bibliothèque municipale.
Des bibliothécaires qui peuvent venir aussi faire des actions.
Oui, bien sûr, ils nous proposent des choses. Alors, des fois, c'est des expositions, des fois, c'est plutôt des types de collections de fonds. Ils nous orientent sur les achats qu'on fait une fois par an. Donc, on fait du désherbage également. Donc, voilà, on fait beaucoup de vide sur ce qui est lu, ce qui n'est pas lu. On a un logiciel bibliothèque, comme dans une bibliothèque normale. Et on voit ce qui est consulté. Il y a des effets de mode. Il y a des voilà, on porte beaucoup de caisses de livres. Voilà. Et je reçois aussi beaucoup de dons. C'est toujours un petit peu délicat parce que bah, voilà, les dons, les personnes détenues ont un vieux livre, c'est compliqué. Voilà, quand un livre a plus de 10 ou 15 ans, bon, bah, dire à quelqu'un non, je suis désolée, ça ne va pas être possible. Voilà, on fait du tri. mais voilà, j'ai toute une cave remplie de livres.
Oui, une dernière question, puis on va mettre.
Alors moi j'ai une question, ça sera peut-être un peu personnel. Je voulais savoir, puisque vous créez des choses, vous créez des liens, et si avec ces liens, vous arrivez à prendre le recul nécessaire face à peut-être des situations des fois tragiques pour les familles, si vous arrivez à séparer le professionnel du personnel et faire le distinguo entre les deux.
Alors, quand mon mari vous dirait que je parle beaucoup de mon travail, mais je pense que, enfin, comme moi, quand je suis avec les détenus, pour moi, il y a une personne et il y a ce qu'elle est. Je suis pas juge, je suis pas là pour les juger. Ça a déjà été fait, et donc il peut y avoir des situations qui me bouleversent, des choses qui me plaisent pas dans ce qu'ils ont fait, parce que même si on n'a pas on n'est pas obligé de le savoir, on le sait plus ou moins dans les paroles. Donc pour moi c'est assez clair dans ma tête, c'est-à-dire que les personnes qui sont là devant moi sont une personne avec ce qu'elles sont, et c'est à cette personne à laquelle je m'adresse. Voilà.
Pour ma part, effectivement, moi, ma priorité, c'est de donner accès à de la culture, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, à des personnes. Et évidemment, il y a des cas, on entend des choses, des fois on se confie à nous aussi. Et c'est pas toujours évident. Faut pouvoir l'accueillir, le digérer. Voilà. Mais c'est aussi ce qu'on demande à nos intervenants. Qui viennent de l'extérieur et pour laquelle c'est la première fois. Et oui, on peut avoir une personne détenue qui vous confie tout son parcours et son affaire judiciaire sans barrière. Donc il faut être prêt à entendre ça et ne pas juger, parce que c'est pas votre rôle de juger. Il y a un juge, il est là, il va faire ce qu'il a à faire. Mais c'est jamais évident. Évidemment, il y a des fois où ça se cumule. Et on se dit, mince, là, ça fait beaucoup, c'est quand même un milieu difficile. Alors, je quitte pas mes fonctions pour ces raisons-là, parce que l'humain reprend souvent le dessus et on essaye de recentrer sur ce pourquoi on est là. Et on voit les résultats aussi, on est au quotidien, on a la chance de pouvoir voir ce que ça donne à la fin. Et moi, quand je vois une personne qui me dit « Ah, c'était génial, et je veux faire ça dehors, je veux emmener ma famille, je veux emmener mes enfants », on fait pas ça uniquement pour la personne. Du coup, on sait qu'on rayonne autour, qu'il va en parler à son codétenu. Et puis, on a des échanges qui sont très constructifs avec mes collègues CPIP, sur « Lui, tu penses que c'est intéressant qu'il vienne à telle activité ?» Ah oui, parce que là, en ce moment, il est dans une situation pas facile. Et on fait de l'humain, vraiment. Et c'est, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce que je fais. Et heureusement que c'est là, d'ailleurs. Parce que le milieu est tel qui... Voilà, ça, c'est ce qui nous motive, je pense, au quotidien. Il y a beaucoup de déceptions aussi. On se réadapte, on annule, on refait. En plus, là, on sort d'une période compliquée où tout a été suspendu, tout était annulé. Là, on n'était pas prioritaire, donc... se remobiliser pour dire allez, on y retourne, c'est le moment, il faut l'énergie, il faut beaucoup d'énergie et de motivation, il faut réussir à se recentrer de temps en temps, et ça peut être fatigant. On le mesure pas toujours quand on est dedans, et puis quand on sort, des fois on a passé les portes, on est dehors. Moi j'ai ce temps, je sais pas toi, mais voilà, de respiration, de oh, c'était une bonne journée un peu intense, voilà. Et juste pour revenir rapidement sur les personnes, les faits, etc. les personnes qui sont en détention, elles finissent toutes par sortir. Là, le système en France fait que y a très peu de personnes qui ne sortiront jamais. Voilà. Et il faut toujours se dire que ces personnes retourneront dans la société. Et la question de l'incarcération, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce temps ? Alors, on a tendance rapidement à les oublier, à les mettre de côté en se disant « bon, c'est bon, ils sont dans une boîte, on n'y pense plus ». Nous, notre rôle, c'est de se dire « on est dans la boîte, la boîte, à un moment donné, pour cette personne, elle va s'ouvrir, qu'est-ce que ça va donner ? C'est quoi la solution à la sortie ? Est-ce que la personne, elle a changé ? Est-ce qu'on a aggravé les choses ? Est-ce que, en fonction de ses antécédents, est-ce qu'on lui a apporté des solutions ? Est-ce qu'elle est dans de bonnes conditions pour se réinsérer ? Et ça, c'est toujours, encore une fois, difficile à évaluer. On essaye, en tout cas, tel que le système est fait, pour mettre tous les moyens en place. Mais voilà, avec plus ou moins de succès, on le sait.
On va mettre un terme à cet entretien très humain et très émouvant. Merci à toutes les trois. Merci à Alexandre, Aurélie et... Si je peux me permettre une petite anecdote de ma perception de la prison. Il y a quelques années, le festival accueillait Guy Bollé, auteur qui était venu et qui avait une très forte émotion de cette rencontre. Et moi, avec une librairie grenobloise, on voulait l'accueillir dans la foulée. Et donc, on m'a dit, venez l'attendre à la sortie de la prison, puisqu'il est en intervention. Et moi, j'arrive à la prison, j'étais en avance, je vois un homme en bleu qui rentre dans la prison, et je le suis, en fait. Je pensais qu'il y avait une salle d'attente où je pouvais recharger mon portable, boire un café, tout. Je me suis vite fait rattraper par le collet. Mais madame, qu'est-ce que vous faites là ? Et en fait, je suis allée attendre dehors. Voilà. Donc, j'étais très naïve aussi sur la prison. Merci à vous.
Merci.